Salut Hugues.
Salut Marc.
Ravi de te retrouver. On continue à parler de ce qu'on peut faire tous pour enrayer cette disparition du vivant. Ça tourne bien sûr autour des arbres, on a vu ça dans l'épisode précédent. Et aujourd'hui, on va parler de ce qu'on peut faire plus au ras du sol, au niveau des prairies. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire tout simplement au niveau des fleurs, j'imagine, au niveau de nos prairies?
Alors juste, je rappelle qu'on a distingué ça, hein, les arbres, les prairies, parce que ça rentre dans ce qu'on appelle la mosaïque d'habitat, c'est-à-dire les différents espaces de refuge, de nourrissage, de nidification, que sont les espaces d'herbes tondues, d'herbes hautes, de buissons, de fourrés, d'arbres, de forêts, d'humus, etc. Bref, tous ces espaces qui sont des espaces indispensables à l'accomplissement du cycle des espèces. Et là, on voulait parler donc plutôt des zones d'herbe, c'est-à-dire les prairies quand elles sont en bonne qualité, ou les pelouses, les gazons quand ils sont un peu dégradés, qu'on peut retrouver à d'autres endroits, hein, comme les talus de bord de route, comme les bandes enherbées qu'on a au bord des zones agricoles, les bandes fleuries. Voilà, il y a tout un tas d'espaces sur lesquels les plantes herbacées peuvent s'exprimer.
Je voulais juste décocher un petit coucou à Jean-Philippe Paul, le rédacteur en chef de la revue Salamandre, qui expliquait dans une chronique à Radio France, je ne sais plus où et quand, mais qu'un autre espace négligé, mis à part les jardins, et qui constitue un énorme continuum en France, c'est justement les bords de route et les talus, qui sont d'une richesse et d'une importance capitale et qui sont pourtant très négligés eux aussi.
Incroyable, très négligé, mais en train de changer, notamment au bord de certaines autoroutes, du fait que la gestion a été modifiée, pas pour des raisons forcément écologiques, même s'ils communiquent là-dessus aujourd'hui, en tout cas probablement pour des questions économiques au départ. Et on voit bien sur les autoroutes du sud de la France que les premiers mètres sont maintenus tendus pour des questions de sécurité, là où les voitures peuvent se poser et les gens peuvent descendre de la voiture quand ils sont en panne. Par contre, l'essentiel du talus est laissé en libre évolution. Et donc il se passe inévitablement la montée des herbes, l'embroussaillement, l'arrivée des ronces, l'apparition des arbres et la transformation en boisement. Donc on a beaucoup d'espaces du sud ou de bords d'autoroute qui sont en train de se transformer en forêt, ce qui est extrêmement efficace, encore une fois, en termes de résilience, en termes d'attractivité de la faune et de la flore, et en termes de mise à disposition des habitats complémentaires, puisque en lisière de boisement, on va trouver les arbustes, les zones de plantes herbacées, et donc cette diversité floristique dont les insectes ont besoin. A l'inverse, il y a de plus en plus de routes et d'autres autoroutes, notamment dans l'Est par exemple, mais pas que, hein, je ne connais pas tous les espaces en France, où on a modifié les espaces de gestion, et donc on broie sur place, souvent avec une épareuse ou un gyrobroyeur, on avance avec un tracteur et on broie l'herbe verte sur place. Et donc ça, évidemment, l'herbe verte, comme on l'a dit la dernière fois, c'est des organismes très riches en azote, donc ça va enrichir le sol en azote. L'azote que la plante a capté dans l'atmosphère, la métaboliser en l'écrasant et en la broyant, ça va enrichir le sol en azote. Donc ça va modifier les conditions du sol. Et ça, ça va bloquer la germination des fleurs sauvages, puisque la plupart des fleurs sauvages et des prairies riches en fleurs sont des prairies maigres, des prairies pauvres. Et en enrichissant le sol en azote, on va donc bloquer la germination de ces fleurs au profit des plantes qu'on appelle nitratophiles, les plantes qui mangent des nitrates, c'est-à-dire les orties, les rumex, les oseilles, quoi, les pissenlits, les chardons, les grandes graminées à feuilles larges, les grandes ombellifères, bref, un certain nombre de plantes au détriment de cette grande diversité de fleurs.
C'est les plantes rudérales, tiens, je passe un petit mot technique, mais c'est les plantes qui poussent facilement sur ces endroits fraîchement en chantier.
Voilà, les rudérales, c'est les premières colonisatrices sur des terrains qui ont été mis à nu. Là, au contraire, je parle de plantes qui poussent sur des terrains qui ont été enrichis du fait du broyage des plantes des années précédentes. Donc les rudérales sont les premières à arriver, et là on est plutôt dans des plantes qui arrivent un petit peu plus tard. Tout ça fonctionne pas tout seul, hein. Il va falloir, mais on l'a évoqué largement dans les épisodes précédents, entourer ça de haies, de bosquets, et même adjoindre des zones humides, mais on y viendra. Et puis bien évidemment, il n'y a pas de choix encore à faire, mais il n'y a qu'à laisser les herbes monter, laisser la banque de graines s'exprimer, la nature spontanée s'exprimer. Si jamais on doit acheter, là aussi la marque végétale locale permet d'avoir accès à des semenciers qui produisent des graines adaptées à la faune locale et aux conditions bioclimatiques de la région.
Hugues, forcément, on parle de prairies. Alors, dis-nous un mot sur la fauche, tout simplement, sur la tonte, la fauche.
Oui, alors d'abord, il faut se rappeler que la nature, elle évolue dans chaque région géographique du monde vers un niveau qui est un niveau stable. Ce niveau stable, ça s'appelle un climax. Si on est dans les plaines d'Ukraine ou de l'ouest de la Russie, ou bien les plaines à bisons d'Amérique du Nord, le niveau stable, c'est une steppe. C'est une zone des plantes herbacées qui vont atteindre le climax et qui vont. Il n'y aura pas d'arbres parce qu'il pleut pas assez. Pendant plusieurs mois, il pleut pas, donc il ne peut pas avoir d'arbres, sinon des petits arbustes. Chez nous, par contre, comme il pleut beaucoup plus que dans ces espaces-là, on va avoir des grands arbres. C'est-à-dire, plus il y a d'arbres, plus il y a d'eau, plus il y a d'eau, plus il y a d'arbres. Mais les espaces qu'on a en prairie sont des espaces qui, naturellement, sont maintenus par des brouteurs qui viennent et qui prélèvent les plantes, qui éventuellement abroutissent les jeunes arbres qui sont en train de repousser et donc peuvent maintenir des lisières ou des clairières. Si ces animaux n'interviennent pas, si on ne fauche pas, si on n'y met pas de pâturage, inévitablement, et ça c'est un processus qui est tout azimut en France, évidemment, sauf au-dessus de 2000 mètres, dans les marais salants ou dans les sablières, évidemment, mais ces plantes donc vertes vont monter, vont jaunir en fin de saison, donc elles vont perdre de l'azote au profit du carbone. Le carbone va devenir dominant et les plantes vont finir par retomber, les chaumes vont retomber, donc transmettre ce carbone au sol et permettre la germination des broussailles que sont les ronces, les églantiers, les aubépines, les prudeliers, les berbéris, et puis les arbres à pousse rapide et à bois tendre que sont les frênes, que sont les érables, et là-dessous, sous le couvert, sous la protection, vont pousser les arbres à pousse lente et à bois dur que sont les chênes, les hêtres, les châtaigniers qui vont finir par passer au-dessus et par dominer. Donc en 5 à 7 ans, on a une strate arbustive et arborée de 3, 4, 5, 7 mètres. En une dizaine d'années, on a une petite forêt d'une dizaine de mètres, notamment de frênes. Et en 50 ans, on a une forêt, une chênaie, chênaie charmée, chênaie hêtraie, qui a pris le dessus. Ça, c'est le climax. Donc voilà, il faut bien comprendre que si on ne fait rien, n'importe quelle prairie, en quelques années, sans broussailles, elle se transforme en forêt en une dizaine, une quinzaine d'années, et en une forêt de chênes en une cinquantaine d'années. Si on veut maintenir des fleurs, il faut donc qu'on fauche et qu'on exporte. Et ça, c'est primordial, parce que si on fauche simplement, on laisse la matière sur le sol, on enrichit le sol et on se retrouve à ce qu'on disait en termes de gestion des bords de route, on modifie la qualité du sol et donc on modifie la présence des végétaux. Donc il est important de faucher, et je vais revenir sur la tonte, et d'exporter. Si on fauche, on fait tomber les végétaux en les coupant à la base, et donc tous les animaux qui sont dessus vaquent à leurs occupations et vont faire ce qu'ils ont à faire, en tout cas, ne sont pas trop perturbés. Si par contre, on passe une tondeuse, que ce soit une tondeuse qu'on pousse ou une tondeuse qu'on pilote sur une petite voiturette, là, avec une lame rotative qui tourne à plusieurs dizaines de fois ou centaines de fois par minute, tout est haché menu en petits morceaux. Les plantes, les animaux, tout est détruit. Tout est détruit. Et en plus, cette matière est extrêmement difficile à récupérer. Et si on la récupère avec un bac, en fait, ça provoque des phénomènes de méthanisation, donc des dégagements de méthane, un gaz qui est 30 fois plus réchauffant que le CO2. Ce n'est pas forcément la meilleure des idées qu'on a eues. Alors que quand on fauche cette matière qu'on peut facilement laisser sécher, facilement mettre en andin et facilement récupérer, peut tout simplement être déposée au pied de la haie qui sera attenante pour la pailler, pour l'enrichir et pour notamment enrichir le sol en carbone, ce qui est tout à fait intéressant pour les arbres. On peut aussi d'ailleurs l'utiliser dans un paillage ou en faire du compostage si nécessaire.
Mais tu parles de fauche, alors on a tous envie de faucher, mais alors du coup, les paysans, ils vont te dire qu'ils n'ont pas le temps. Mais est-ce qu'on peut faucher avec un tracteur, par exemple?
Oui, tout à fait. Alors, on peut faucher manuellement. D'ailleurs, il y a certaines communes qui commencent à reformer des agents d'espace vert à la fauche manuelle. Alors, évidemment, dans des petits espaces, là où c'est... où
il y a des problèmes en termes de temps.
Alors, la fauche manuelle va plus vite qu'un débroussaillage à la débroussailleuse. D'ailleurs, je vous invite à trouver, sur YouTube, par exemple, vous tapez concours faux débroussailleuse, vous allez voir des concours où un faucheur professionnel et un débroussailleur professionnel font la course, le faucheur va juste deux fois plus vite que le débroussailleur avec une débroussailleuse thermique. Donc ça n'est pas la solution la plus efficace, sauf qu'il faut réapprendre à taper, à affûter la lame d'une faux, il faut réapprendre le mouvement qui doit être bien horizontal, etc. Mais ça permet aussi de lutter contre trois maux modernes, la sédentarité, l'obésité et le mal de dos. Et avec la faux, on résout ces trois problèmes. Les disques intervertébraux sont tendus, sont détendus. Ça permet de dégager aussi beaucoup, beaucoup de sueur. Si vous voulez transpirer, c'est le meilleur moyen. Sauf qu'on a des immenses surfaces. Comme tu l'as dit, les paysans ne peuvent pas s'amuser à retourner avec des faux et des râteaux à herbe pour faire des andins. Alors, il existe des matériels adaptables aux tracteurs pour les paysans. Il existe des matériels, d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Quand ils fauchent les prairies, ils ne les tondent pas. Ils ont des faucheuses qui font tomber les herbes, puis ils passent, ils les mettent en andin et ils les récoltent pour les mettre en bottes ou parfois en grosses
balles
balle de foin qui est pas forcément le plus futé qu'on ait fait récemment, parce que ces balles sont maintenues par un petit grillage en plastique. Et évidemment, les oiseaux qui se posent dessus et qui retrouvent leurs pattes bloquées dedans n'arrivent pas à redécoller et se font attraper par les prédateurs. Et ceux qui trimballent ces petits morceaux de plastique en pensant que c'est des petits morceaux d'herbe les emmènent dans leur nid et on voit des oisillons qui se retrouvent étranglés par des petits morceaux de plastique. Donc c'est assez terrible de libérer comme ça tout azimut du plastique en pensant entretenir des méthodes tout à fait traditionnelles.
C'est fou parce que tu parles d'andin, mais c'est ce qu'on voit là. Hier, il y a ton voisin d'en face, le paysan qui a fauché avec son tracteur toute une prairie. Et ce que tu appelles les andins, c'est un peu les sillons d'herbe amassés.
Tout à fait. C'est ce qui permet de le faire sécher, justement pour pouvoir utiliser cette matière en paillage ou au cul des vaches dans les étables. Et là, on va reproduire quelque chose d'ancestral. Le dépôt de la crotte et de l'urine azotée sur la paille carbonée va fabriquer une terre d'excellente qualité.
Le fameux fumier.
Le fameux fumier, tout à fait.
Le fameux fumier. Très bien. Hugues, ces pelouses, on va appeler ça comme ça, il y en a partout, au pied des immeubles, dans les parcs, évidemment, dans nos jardins. Soyons concrets, comment on peut faire tout ça? J'imagine qu'il y a des espaces un peu différenciés, ce genre de choses, donc comment on procède?
Ça, c'est la clé, c'est de ne pas tout faire en même temps et de différencier les modalités de gestion. Si on doit couper, que ce soit par la faux ou que ce soit par la tondeuse, on a vu que la faucheuse était moins impactante, c'est important de ne pas tout couper d'un seul coup. Parce qu'en fait, évidemment, les bestioles qui vivent dans les herbes hautes, si on supprime toutes les herbes hautes, elles ne peuvent plus vivre puisque leur milieu n'est plus là. Et ça veut dire des refuges, ça veut dire des espaces de chasse, ça veut dire des espaces de nourrissage sur les fleurs ou sur les feuilles, en fonction des animaux dont on parle, ou simplement l'abri du soleil, par exemple une certaine humidité qui leur permette de subsister. Ce qui est donc intéressant, c'est de morceler l'espace en deux ou trois parties, l'espace qu'on a à faucher, et de faucher à plusieurs mois d'intervalle. Par exemple, une fauche, alors ce qui n'empêche pas d'ailleurs, au milieu de cette prairie haute, de tracer des chemins avec même une tondeuse, une espèce d'herbe bien tondue, bien douce, sur laquelle on va pouvoir marcher pieds nus et se coucher par terre si on a envie, pour aller au pied des arbres, se mettre à l'ombre, pique-niquer, enfin bref, tout ce qu'on a à y faire. C'est pas forcément nécessaire de couper l'intégralité d'un espace herbacé. Ça, c'est valable dans un jardin, c'est valable dans une résidence. Mais c'est aussi et encore plus valable dans les grands, grands espaces que sont les parcs, les jardins et les parcs urbains, intra-urbains et extra-urbains. On a parfois des grands parcs dont des dizaines d'hectares sont tondus 8 fois, 10 fois, 12 fois par an, alors qu'ils pourraient être fauchés une fois par an. Donc évidemment, la dépense énergétique, le temps de travail et l'impact sur la nature n'est pas du tout le même. Donc, je reprends ma fauche, si on la décale en trois parties, ce qui peut être intéressant, c'est laisser les plantes accomplir leur cycle et de faucher par exemple en fauche tardive à partir du 15 juillet. Là c'est une date moyenne parce qu'évidemment ça peut être un peu plus tôt dans le sud, un peu plus tard dans le nord. Globalement, la floraison de la fléole des prés, est un bon indicateur pour avoir au-delà duquel on a une fauche tardive. Quand on a cette fauche, on va pouvoir faucher par exemple un tiers le 15 juillet, un autre tiers, par exemple, au mois d'octobre, avant que les animaux rentrent en hivernage. Donc, je vous rappelle qu'il y a une partie qui n'a pas du tout été touchée, donc qui est bien, où il y a bien des herbes hautes. Une partie qui a été touchée 3 mois avant, qui a pu remonter, qui commence d'ailleurs même un petit peu à refleurir. Et cette partie au mois d'octobre qu'on va couper. Puis, arrivé l'année suivante, en mars ou en avril, on va faucher la troisième partie, celle qu'on n'aura pas fait l'année précédente. Et à ce moment-là, la partie fauchée au mois de juillet est haute, la partie fauchée au mois d'octobre est à mi-hauteur, et la partie fauchée au mois de mars ou avril va se retrouver rasée. Ce qui permet de fournir cette mosaïque d'habitats, plantes rases, plantes moyennes, plantes hautes, qui ne sont pas les mêmes habitats et qui sont complémentaires, et qui permet donc de toujours maintenir des ressources de refuge ou de nourrissage pour les animaux qui vivent dans les herbes hautes. C'est ça la notion de gestion différenciée, différencier son activité de gestion dans l'espace et dans le temps.
Il y a une petite tortue, là, il y a un papillon, une petite tortue qui s'est posée sur, à côté de nous, là, sur les plantes. C'est magnifique. Hugues, dans un terrain, dans un jardin, il n'y a pas que les prairies. Il y a par exemple des tas de bois, il y a des tas de foin, et puis il y a aussi des arbres morts. Là, je vois que tu as une belle photo là, dans ta conf. Est-ce que tu peux me parler un peu des arbres morts, qu'on pourrait aussi appeler en fait des arbres de vie?
Tout à fait. On a parlé en premier lieu, dans cette gestion du jardin ou des espaces de nature, des haies qui entouraient les zones herbacées. On a donc parlé dans un second temps des prairies, des zones de plantes herbacées. Mais il y a tous ces autres éléments qui ont ou qui ont pu être vivants et qui remplissent d'autres fonctionnalités. Alors ça peut être effectivement un tas de bois, un tas de bûches laissées à l'abandon, un tas de foin. Mais ça peut être aussi un tronc d'arbre laissé sur pied ou couché au sol. Et ce n'est pas la même biodiversité qui va s'installer dedans. Parce que ce qu'on appelle un arbre mort, d'ailleurs en général, très souvent, il a quelques branches qui sont vivantes, mais surtout, il fournit des accueils, des capacités d'accueil incroyables pour les oiseaux nocturnes, pour les oiseaux diurnes, pour les chauves-souris, pour les insectes qui mangent le bois, pour les oiseaux qui mangent les insectes qui mangent le bois, pour les fourmis, pour tout un tas d'animaux. Il va fournir des refuges, fournir des espaces d'hivernage, de nidification, et surtout, il va dispenser lentement dans le temps sa matière organique et donc entretenir le nourrissage, le maintien de la qualité germinative du sol et de l'humidité et du carbone qui sont stockés. Donc c'est extrêmement important de ne pas enlever de la matière organique d'un site, mais de la conserver sur place. Donc là, on a parlé d'un arbre ou de branches mortes qu'on peut entasser au pied d'une haie et qui sont dégradées assez vite. Hein. On a souvent peur d'être envahi par les branches quand on les pose à un endroit. En fait, faites le test. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui n'ont jamais déposé des gros amas de branches parce qu'en fait, ça va à une vitesse incroyable. Ça disparaît à une vitesse incroyable en nourrissant le sol et en fournissant des espaces de refuge pour la faune sauvage. Donc tout à fait intéressant. Évidemment, quand on a un petit jardin, parfois ça peut être un petit peu compliqué de déposer des branchages un peu de partout. Ben, on peut tout à fait l'ordonner, c'est-à-dire couper des branches, couper des bûches et en faire des tas pour que ça remplisse les mêmes fonctionnalités, à la fois de distribution de matière organique dans le sol, mais à la fois d'espace de refuge, d'espace de nidification, d'espace de ponte, etc. On a parlé des espaces de fauche. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits de fauche ? Le plus simple, c'est de les déposer au pied des arbres. Ils vont nourrir les arbres, protéger les arbres, pailler les arbres. Mais on peut tout à fait les empaler, par exemple, sur un piquet ou faire un gros tas qui va sécher, qui va faire un petit toit de chaume. Et les produits de fauche qui sont en dessous, le foin en dessous, ne va pas être dégradé. Ce qui permet de pouvoir soit le donner aux animaux l'année suivante si vous avez des animaux, soit de l'utiliser l'année suivante comme paillage sur vos espaces de culture au pied des arbres ou pour préparer un futur espace qu'on va planter puisqu'on a bien affaire à des herbes sèches, grises, jaunes et cassantes et donc essentiellement du carbone.
Très bien Hugues, on s'approche de la fin de cet épisode où il va être question, après les arbres, il va être question des zones humides, il va être question de l'eau. Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment l'eau peut nous aider ? Comment on peut s'en servir d'une certaine manière ?
Alors, à l'échelle de la planète, il y a très peu d'eau en fait. Évidemment, 71% de la surface de la Terre est recouverte d'eau, mais sur 2 à 10 kilomètres. Or, la Terre, elle fait 6400 km de rayon. Et donc, ça fait 1/600 de la surface. C'est vraiment la couche d'eau qui est sur la nappe, la toile cirée, quoi. Donc, il y a vraiment très, très peu d'eau. Et malheureusement, elle ne tombe pas de façon uniforme. Et on s'est rendu compte que les précipitations étaient un petit peu perturbées. À côté de ça, on a vu, quand on a évoqué les causes de disparition du vivant, qu'on avait drainé plus des 2/3 des zones humides en France. Et donc voilà deux raisons importantes de restituer massivement les zones humides, les zones d'eau libre et les zones d'eau stagnante dans les milieux terricoles, les prairies humides, etc. Donc évidemment, en premier lieu, restituer les zones humides, ça veut dire laisser le fonctionnement hydraulique naturel, mais aussi recreuser des espaces qui ont été comblés par l'uniformisation, l'arasement des terrains, alors qu'ils remplissent les rôles primordiaux pour tout un tas d'espèces. Beaucoup d'animaux viennent boire, beaucoup d'animaux viennent chercher de la boue. On a parlé des abeilles maçonnes ou des sphégiens qui paralysent des araignées, ils viennent chercher de la boue pour faire leur nid, mais c'est valable aussi pour les hirondelles, par exemple. Sans mare, il n'y a pas d'hirondelles, elles n'ont pas de quoi fabriquer leur nid. Mais à côté de ça, le plus gros réservoir d'eau qu'on ait, c'est le sol. On l'a déjà évoqué, le sol, notamment par la présence massive d'arbres qui va fournir de la matière organique, qui va pénétrer dans le sol et qui va stocker de l'eau dans le sol. D'ailleurs, on peut comparer un sol qui est limoneux, labouré et donc déstructuré, un sol qui est battant, qui est soumis à la battance, un sol agricole intensif, il va absorber à peu près 1 mm d'eau par heure. Alors que le terrain juste à côté, à quelques mètres, qui lui est un terrain vivant, poreux, plein d'éléments animaux, végétaux, etc., va absorber entre 30 et 150 mm, c'est-à-dire 30 à 150 fois plus. Donc c'est bien par le bon traitement, le respect du sol et le maintien de la matière organique sur place qu'on va pouvoir augmenter la quantité d'eau maintenue dans le sol. À côté de ça, bien évidemment, il tombe de l'eau sur les prairies, dans les jardins, mais il tombe de l'eau aussi sur des espaces minéraux qu'on a séparés du milieu vivant. Et c'est les toits, les trottoirs, les routes, etc., où toute l'eau est dirigée dans les canaux d'évacuation des eaux usées, les égouts, ça s'engorge. Et c'est bien dommage parce qu'en fait, ce serait primordial de redistribuer les eaux à la parcelle, c'est-à-dire de faire s'écouler toute l'eau qui tombe du ciel sur la parcelle pour augmenter la quantité et donc la capacité de restitution de l'eau aux plantes et à la vie en général. Et le dernier point qui est un petit peu plus complexe pour les zones humides, mais qui demande un petit peu plus de temps, un petit peu de technicité, mais vous trouverez plein de gens de bonne volonté pour vous accompagner, notamment des associations naturalistes, parce qu'elles sont conscientes de l'importance de la restitution des zones humides. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais 30% de la flore protégée en France dépend des zones humides. Et c'est des milieux qui manquent, donc qui sont très très rapidement recolonisés. Donc on peut artificiellement recreuser des mares qui sont très très rapidement recolonisées par la faune sauvage. En quelques mois, hein, la faune et la flore sauvage s'installent et vous avez des espaces de vie qui sont grandioses. Et je tiens à rappeler que les zones humides, dans les milieux tempérés, sont les biotopes les plus riches. Donc vous comprenez que quand on dit que les biotopes les plus riches sont les zones humides, les haies, les lisières de forêt, et qu'on a coupé 2 millions de kilomètres de haies et drainé 70% des zones humides, en fait on voit d'où viennent les problèmes et comment on peut inverser en reconstituant ces choses-là.
Hugues, qui dit mare dit moustique. Donc, est-ce qu'il faut craindre les moustiques ?
Eh bien ça, c'est dans l'inconscient collectif, effectivement. Tu l'as répété, tu as eu du mal à l'enregistrer, mais je crois que ça y est, tu peux te dire dans quel village j'habite.
Oui, c'est Saint-Pierre du Palu.
La Palu, tout à fait. Saint-Pierre la Palu. Donc, Palu, ça veut dire marais. Hein, je vous rappelle que le paludisme et la fièvre des marais, on pensait que c'était, d'ailleurs, ça s'appelle la malaria en vieux français, qui veut dire mauvais air. On pensait que c'était l'air vicié des marais qui transmettait cette maladie. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que c'est un moustique qui pique et qui transmet un protozoaire qui se développe dans ses glandes salivaires. Voilà, et ça s'appelle le plasmodium, hein, qui est l'agent pathogène de la malaria ou du paludisme. Mais en fait, les marais, les marigots, les marécages, les mares qui se referment, c'est là-dedans qu'on peut trouver des moustiques. Pas dans les mares qui sont vivantes, les mares dans lesquelles il y a de l'eau libre. En fait, les moustiques ont très peu de chances d'émerger parce qu'il y a une telle abondance et une telle diversité d'insectes, notamment hein, les larves de libellules, d'éphémères, de perles, les notonecs, les nocors, les corys, les nèpes, les girins, les voilà, il y a tout un tas d'insectes qui vivent dans l'eau, qui sont des insectes prédateurs et qui vont consommer les larves de moustiques ou les adultes, les libellules, les oiseaux, les chauves-souris qui viennent chasser au-dessus des zones humides. Et donc, il y a très peu de chances que les moustiques arrivent à émerger d'une mare.
Je voulais citer les gérisses aussi,
tu sais, gérisses,
ce qu'on appelle
à
tort les araignées d'eau. Qui sont
en fait
punaises.
Des punaises, qui voilà. Patinent sur l'eau, tout à fait intéressantes, et qui détectent les vibrations de l'eau d'un insecte qui vient de tomber ou qui est en train d'émerger, elles fondent dessus et elles l'empalent avec ce rostre caractéristique des punaises qu'on a déjà évoqué précédemment.
Les gérisses. Bon, très bien, donc voilà ce qu'il en était. Donc, c'est une idée reçue hein, de penser qu'une mare, en bonne santé, est productrice de moustiques.
Au contraire.
Non, en fait.
C'est une régulatrice de moustiques. Les mares font partie des outils qu'on a pour réguler les moustiques. À l'inverse, nos modalités de gestion des espaces, notamment des espaces urbanisés, fabriquent des gîtes larvaires spécifiques aux moustiques et dans lesquels seuls les moustiques peuvent se développer. Et donc ça, c'est un vrai problème. Les chenaux bouchés, les jouets renversés, les seaux abandonnés, les coupelles de plantes en plastique qu'on trouve dans les cimetières, les doubles planchers des balcons, tout ça sont des espaces dans lesquels l'eau peut s'infiltrer et dans lesquels les moustiques peuvent s'installer sans que jamais un prédateur puisse s'installer. C'est pour ça qu'en fait, notamment le moustique tique, qui se développe dans les très petits volumes d'eau, est présent en ville et assez peu à la campagne. On peut en trouver, mais quand même nettement moins que dans les zones urbaines.
Hugues, ok, donc on voit tout l'attrait, tout l'intérêt d'une mare. En plus, c'est une mine pédagogique, tout simplement.
Ah bah incroyable, on a dit que c'était les milieux les plus riches. Et donc effectivement, avoir un petit observatoire au bord d'une mare, au bord d'une zone humide, c'est notamment un moyen tout à fait pertinent de faire pénétrer les enfants dans ce monde qui nous entoure. On entend un serin ciné qui chante juste au-dessus de nous. Là. C'est un moyen de leur faire découvrir cette diversité de faune, cette diversité de flore, et de voir effectivement des bestioles communes comme des crapauds ou des grenouilles, mais parfois des bestioles plus emblématiques comme les castors, par exemple, les castors ou les loutres. Voilà, des choses qui peuvent être fabuleuses. Donc c'est vraiment un point intéressant à ne pas négliger, c'est la pédagogie et l'ouverture vers la vie sauvage.
Tiens, un autre bienfait des zones humides, des mares, qu'on aurait raison de faire revenir partout où c'est possible, c'est tout ce qui est phytoépuration. Qu'est-ce qu'on entend par là ?
Eh bien oui, on a parlé des eaux qui tombaient sur les toits, sur les routes et qui étaient distribuées dans les égouts, alors qu'on pourrait tout à fait faire des bassins qui permettaient de reconstituer une partie des zones humides qui ont été drainées, donc de refournir des espaces de vie à la faune et la flore, des espaces où ils peuvent venir boire, où ils peuvent venir chasser, etc., tout en restituant une eau de qualité au milieu naturel. Et ça, ça peut être fait à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un hameau, à l'échelle de quelques maisons, où plutôt que d'avoir individuellement des fosses septiques, plutôt que d'avoir collectivement des récupérations des eaux usées, on pourrait tout à fait mettre en place, pour un faible coût d'investissement, des zones de phytoépuration dans lesquelles on va avoir une filtration mécanique, chimique, biologique et donc des espaces de vie avec un maintien de l'humidité sur l'espace en lui-même.
Hugues, on a fini de raconter ce que tout un chacun pouvait faire et surtout pourquoi il faut le faire et comment on peut le faire. Donc merci pour toutes tes lumières sur ces questions qu'on va appeler de renaturation. C'est drôle parce que à la fin de ta conf là, dont on s'est servi pour faire ces émissions, tu as mis une photo de ton jardin, de ton propre jardin avant-après en 10 ans. Et effectivement, c'était un jardin tout mort avec une vieille pelouse, juste une pelouse, quoi. Et là, bon, il y a la photo d'après où on voit cette incroyable diversité de couleurs. Et du coup, Hugues, je vais te laisser toi conclure cette émission. Est-ce que tu pourrais nous faire un bel emballage de tout ce qu'on a dit en une phrase, en un mot? Comment tu conclurais cette émission?
D'abord, il est temps d'y aller. Il va falloir qu'on implique toutes les strates de la société, les espaces publics, les espaces privés, et que tout un chacun se lance dans cette recolonisation, cette place qu'on va laisser à la nature. Mais surtout, en termes de gestion, il faut qu'on sorte du nettoyage et du faire propre, systématiquement. Parce que la nature n'est pas sale. Personne n'a de problème pour s'installer sur un trottoir, alors que ça pose souvent des problèmes de s'asseoir par terre, parce qu'il peut y avoir des bêtes et des cacas, et c'est dégueulasse. Et là aussi, il y a cette notion d'hygiénisme et de faire, d'interventionnisme, qui pose un véritable problème à la nature, notamment par la banalisation des espaces. Donc, laisser faire les espaces, ne plus faire, c'est la meilleure chose qu'on peut faire à la nature et le meilleur cadeau qu'on peut lui faire pour lui laisser une place digne de ce nom, qu'on puisse bénéficier, puisqu'on en a besoin, de tous ces services qu'elle nous rend au quotidien.
Bien faire et laisser pousser. Silence, ça pousse, on a envie de dire, pour reprendre un titre.
On regarde les herbes pousser et on compte les cailloux.
Hugues, en parlant de conclusion, je sais que tu as une phrase que tu aimes beaucoup, par laquelle tu finis souvent tes conférences. J'aimerais que tu nous l'offres pour finir.
Oui, c'est une phrase de Robert Hénard, qui est un naturaliste bien connu dans le monde des naturalistes, qui est un artiste, philosophe, peintre, sculpteur, qui était suisse puisqu'il est décédé, et qui disait il y a une cinquantaine d'années, qui sortait une phrase de prédication, et on y est aujourd'hui. On a vu pendant ces dernières décennies la biodiversité comme une entrave à la production, comme une gêne à la vie des humains. Et en fait, non, le paradigme doit être inversé. Et là, voilà sa phrase qui est juste majestueuse. Un jour viendra, et plus tôt qu'on ne pense, où le degré de civilisation se mesurera non à l'emprise sur la nature, mais à la quantité et à la qualité, à l'étendue et à la sauvagerie de nature qu'elle laissera subsister. Eh bien, ça y est. La nature doit être vue comme un facteur d'émancipation, un facteur de bien-être et un facteur de production. On ne peut pas vivre sans, et nous sommes la nature.
Rien à ajouter. Cher Hugues, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ta patience, pour toutes tes lumières. On se retrouvera très vite pour d'autres projets, pour d'autres émissions, pour d'autres sujets. D'ici là, tout simplement, prends soin de toi. Salut.
Salut Marc, et grand merci à toi.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre, tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?